Est-ce que vous me recevez maintenant? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon. Oui, ça marche bien mieux avec un micro branché, hein. Ouais, c'est bien mieux. On est d'accord. Point technique important. Un micro marche mieux quand il est branché. Voilà. Vous le notez? Alors, j'étais en train de dire Marion, hélas, ne peut pas être là ce matin. Elle est malade. Il y a une gripouille qui traîne. Bon, après, dans l'absolu, vaut mieux qu'elle soit malade maintenant qu'en vacances, hein, on va dire ça. Mais bon, la pauvre, elle est bien enrouée ce matin. Le volume, normalement, je l'ai pas changé, le gain. Vous devriez avoir le même gain que d'habitude. C'est bon au niveau du son, vous entendez bien? À part Mids qui a un problème de volume. Est-ce que les autres, c'est bon au niveau 5 sur 5? Merci Samuel. Ok, donc voilà, Marion ne peut pas être là ce matin. Donc, je suis venu à l'atelier pour vous faire le Texcope du lundi. Allez, on commence tout de suite en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Sébastien, Nightly Angels, Alexis, Maca et Anthony. Merci beaucoup à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. On va faire notre petit. Ah, du coup, un lundi avec une petite expression désuète. Salut Steven! Steven est dans la place. Du coup, bah, on va faire un lundi avec la petite expression désuète du jour, puisqu'on est à l'atelier. On va en profiter, hein? Alors, aujourd'hui, oula, elle est bizarre l'expression désuète. Vendre des carottes qui ne voulaient pas cuire. Moi, je connaissais les carottes sont cuites, mais on va voir. Vendre des carottes qui ne voulaient pas cuire. On considère jadis les carottes comme une nourriture de pauvres. Si en plus elles étaient si vieilles qu'il fallait les cuire une éternité pour ça, pour les attendrir, il y avait de quoi éprouver du mécontentement. Pourtant, chacun sait que quand les carottes sont cuites, il n'y a plus rien à espérer. Ah, d'accord, ok. Donc quand vous avez des carottes qui mettent du temps à cuire, bah vous êtes un pauvre. Le mec qui n'a rien compris à la définition. Mais en gros, c'est ça. Hein? Eh bien voilà, vous le saurez, vous pourrez faire l'intelligent à votre prochain dîner en ville. Que 8? Non, on est 128, 126. Ah, il y en a deux, les carottes sont trop cuites pour eux. On en a perdu deux au passage. Super, ta vidéo test du sac Peak Design sorti hier. Mais j'ai rien sorti encore sur le Peak Design. On est en train de les fabriquer. Alors, pourquoi le micro était débranché ce matin? J'ai une explication très simple. Vu qu'on a fait un enregistrement vendredi soir avec Pépé Garcia d'ailleurs, on a dû brancher un micro canon parce qu'on avait un micro cravate qui nous manquait et donc j'ai dû enlever le câble XLR du micro du Texcope. Voilà. Vous savez tout. Ah oui, d'accord, je comprends la vidéo Peak Design. Effectivement, sur la chaîne de F1.4, il m'avait montré sa vidéo du Peak Design. Je lui avais corrigé deux, trois trucs. Et du coup, il a fait une intro en remplaçant ma gueule, sa gueule par ma gueule. Ah non, mais je vous dis, franchement, je devrais demander beaucoup plus que de l'affiliation à Peak Design. Si vous voulez aller voir la vidéo, elle est donc sur F1.4. Voilà. Allez, on va voir le sommaire du jour ensemble. Sommaire du jour bien rempli, quoique il n'y a pas des news extraordinaires, mais on va faire un tour de nouvelles rumeurs Apple émanant d'une source plus sûre que les autres, avec des choses surprenantes. Je vous ai donné assez envie de rester. Ok, c'est bon. On parlera ensuite de Twitter qui joue en ce moment avec cette notion de pouvoir corriger les tweets. Il y a du pour, il y a du contre de pouvoir corriger ses tweets. Et Twitter sera en train de jouer avec une notion de clarification de tweets. Je vous expliquerai ça. On parlera également de la colère des habitants et des élus qui a fait plier Amazon, qui abandonne son idée de siège new-yorkais. Ça serait peut-être aussi une histoire de discrétion par rapport à ces histoires amoureuses. Hein. Mais bon, on verra un petit peu ce qui se passe. Nous parlons également de Nintendo qui pourrait bien faire une annonce concernant la Nintendo Switch et la réalité virtuelle. C'est une rumeur, on prendra ça avec des pincettes virtuelles, bien sûr. Nous parlerons de bananes, non, plus exactement, nous parlerons, et l'article est assez intéressant, une rumeur d'un Galaxy S10e qui serait jaune banane, montre pas mal de choses sur notre comportement par rapport à la couleur des smartphones. J'avais déjà évoqué le sujet, mais cette fois j'ai un article pour m'appuyer, et de l'importance de la couleur des smartphones, même si au final vous n'achetez que des noirs et blancs. je vous expliquerai ça. On parlera également de Samsung, toujours, qui devrait, ça on le fera rapidement, mais qui devrait ouvrir trois Samsung stores aux États-Unis. Donc Samsung se lance dans les stores physiques, un peu à la Apple. Et voilà, ça sera pour les nouvelles du jour. Ça sera donc la dernière. Attendez, je compte. Oui, c'est bon. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas enlevé celle d'hier. C'est pour ça que vous voyez là celle-ci. Hop. Elles doivent, celle d'hier, celle de vendredi, elles doivent disparaître. Nous faisons disparaître yep. Les anciennes nouvelles. Merde. Les anciennes nouvelles. Puisqu'elles sont déjà périmées. Donc on les jette. On ne veut que des nouvelles fraîches dans Techscope. Yep. Voilà qui est plus propre. Allez, on va pouvoir attaquer tout de suite, à moins que vous ayez des questions. Oui, mais quand on... Non. Non, faux. C'est pas sur ça, la vidéo avec Pepe Garcia. Haha, tu t'es trompé. Le pire, c'est que j'aide Sébastien à faire sa vidéo sur le sac Peak Design alors que je vais bientôt sortir les miennes. Je suis vraiment con, hein. Je me tire vraiment des balles dans le pied. Hein. Mais bon, écoutez. Je suis comme ça. Non, Whisky à l'atelier, ça n'arrivera jamais. Comme on est au rez-de-chaussée, il en profiterait pour se barrer à la première occasion. Non, Whisky à l'atelier, ça pourrait pas marcher. Pas de questions, je fais des crêpes. Eh bien, écoute, très bien pour toi, Chris. Je suis très content pour toi que tu fasses des crêpes. Allez, nous, on va parler des rumeurs Apple, un nouveau set de rumeurs, mais cette fois, c'est le fameux Ming-Chi Kuo, hein, qu'on connaît bien, comme une des sources les plus fiables des rumeurs Apple, qui apporterait quand même des choses assez intéressantes sur la prochaine volée d'iPhone qui devrait arriver en 2019. D'après lui, il y aurait 3 iPhones, alors de manière surprenante de même taille, avec des écrans de 6,1 pouces, à voir, donc pas de X, ça m'étonnerait un peu, mais bon, hein, les rumeurs, il y a toujours des petites erreurs, dont un des écrans qui serait du LCD, bouh, Apple scandale qui vend du LCD à 800 euros, on va y avoir encore droit, a priori. Également, ces iPhones, un des modèles embarquerait une triple caméra. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de smartphones avec la triple, voire quadruple, voire cinquuple caméra en ce moment. Après, connaissant Apple, s'ils mettent 3 caméras, on peut présager qu'ils vont bosser à fond le truc. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que... Alors, le truc qu'il va falloir auquel il va falloir pronostiquer, est-ce qu'ils vont mettre un très grand angle ou au contraire est-ce qu'ils vont mettre une longue focale genre un x6 ou un truc comme ça, à voir. Le LCD à 800 euros, Apple se fait taper dessus, pas LG. Bah oui, mais Apple a été le premier, hein. Ouais, les trois de la même taille, j'y crois pas trop à cette rumeur, hein. Toi, tu es toujours en Asie en train de profiter du live à 15h. Bah écoute, nous, on y est bientôt. Dans les moins bonnes nouvelles, a priori, pas de prise USB-C. On l'espérait un petit peu, mais non, encore cette année, ça serait du Lightning. Ça ne me surprendrait pas tant que ça. Je pense que l'USB-C arrive, mais peut-être pas cette année. Ils y vont tout doux. L'iPad Pro, il y avait vraiment du sens parce que l'iPad Pro est fait pour s'intégrer dans un environnement de travail. Et en termes de hardware, on est à mi-chemin entre un MacBook Pro et un iPad. Donc ça avait du sens. Pour les iPhones, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Bon, de toute façon, les gens vont gueuler hein, quand on va mettre de l'USB-C. Et toutes mes prises Lightning qui vont plus rien me servir. Bah, là, 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 là. On va s'y attendre. Il y aura peut-être un peu moins de ça en 2020. Donc, ça me surprendrait pas que qu'Apple laisse le Lightning encore cette année. Nous, on aimerait bien hein, l'USB-C cette année, mais à la limite, j'aurais aimé que Apple commence à faire une gamme iPad Pro, iPhone Pro et iPhone, l'iPhone Pro avec une prise USB-C. Mais bon, ils sont plus forts que moi en marketing, donc ils m'ont pas écouté, comme d'habitude. Également, la chose qui serait un petit peu étrange, c'est que le dos serait en verre, mais en verre dépoli, un peu façon Pixel 3. Et en plus, il y aurait une radio ultra-bande pour la navigation en intérieur. Et une recharge wireless bilatérale, comme on l'a déjà vu sur pas mal d'Android haut de gamme cette année, qui permet de recharger. Hein, avec les AirPods rechargeables en wireless qui arrivent, vous voyez où veut en venir Apple. Ouais, vous collez votre... À voir après s'ils prévoiront vraiment un système où on pourra solidariser sa boîte d'AirPods avec son smartphone. Pour les recharger dans sa poche en fait, une espèce de système, je sais pas moi, peut-être magnétique hein, tout simplement hein. On collerait ça au dos de son iPhone et ça les rechargerait, ça serait pas mal. Le son n'est pas bon, saturé, tu es dans l'axe du micro, détimbré quand tu tournes la tête, un cravate serait bien plus adapté. Oui, mais un cravate, ça serait trop chiant à mettre tous les matins, sans parler des problèmes de frottement. Je vous rétablis un petit peu le micro et je vous le mets un petit peu plus loin. Ouais, ça peut être intéressant, effectivement, si Apple se met aussi au wireless bilatéral. C'est vrai que moi c'est un truc que je trouve pas mal du tout sur les smartphones. C'est vraiment une bonne idée quoi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Alors oui, dans les autres choses qui seraient hors iPhone, a priori dans ces rumeurs, Apple s'apprêterait à updater l'iPad. C'est vrai que ça fait l'iPod pardon, l'iPod Touch. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveaux iPod Touch. Ça aurait du sens. Pour moi, ça aurait du sens. Il y a toute une catégorie, je pense, d'utilisateurs qui ont même plus besoin des fonctions téléphone, des iPhones, et qui seraient assez acheteurs d'un iPod Touch, je pense. Si le son sature, je peux vous baisser un peu le gain. C'est plutôt ça. Hop. Je vais vous baisser un tout petit peu le gain. A priori, il y aura une encoche hein, sur les iPhones, j'ai oublié de le dire, elle disparaît pas. Également, il y aurait des choses concernant deux nouveaux iPads avec un 10.2 pouces, le 10.2, un 10.2 pouces en plus du 12, mais là, c'est pas encore très clair. un tout nouveau MacBook Pro de 16 pouces, surprenant, nouvelle taille. Un moniteur externe de 6K, va être cher, et également le fameux Mac Pro qui, a priori, serait beaucoup plus facile à upgrader. À voir, à voir. Perso, je vois très mal l'utilité d'un iPod. Bah, je pense que pour des plus jeunes... tout dépend après du prix auquel ils mettraient l'iPod Touch, mais pour des plus jeunes, un iPhone sans ses fonctions cellulaires serait vachement utile. À la limite, ils pourraient même accepter une carte SIM pour le data, pourquoi pas. Sinon, ils se connecteraient au Wi-Fi. Il y aurait le même appareil photo, les mêmes applications. Si, moi j'y vois une vraie utilité. Même moi, je pourrais être intéressé, parce que vu qu'on sert, tout dépend si ça a vraiment la même caméra qu'un iPhone haut de gamme. Nous, vu qu'on utilise énormément l'iPhone comme caméra C, ouais, ça pourrait faire le jeu, quoi. À voir. Moi, je pense qu'il y a un marché pour l'iPod Touch. Et puis, franchement, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, les fonctions téléphone de mon téléphone, je les utilise encore. Mais ça devient super rare. Sans parler que il y a beaucoup de trucs maintenant, c'est en voix sur IP. Ça pourrait le faire. Ça tout dépend du prix. S'il y a un prix plus bas, il y a toute une catégorie de gens qui ne sont pas du tout intéressés par les fonctions cellulaires ou les fonctions téléphone d'un smartphone, que ça pourrait intéresser, quoi. Ça pourrait le faire. À voir, à voir. Allez, on continue. On va parler un petit peu de Twitter. Twitter serait en train pas mal d'expérimenter sur la notion de pouvoir éditer ses tweets. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous balancez un tweet dans la nature, s'il y a une grosse boulette dedans, une énorme faute d'orthographe, vous n'avez pas le choix. Il faut soit l'effacer, soit vous le laissez comme tel. Vous ne pouvez pas éditer un tweet. Et puis, en plus, l'effacer, il faut faire vite, parce que s'il commence à être retweeté et tout ça, c'est trop tard. C'est un peu votre tweet original, puis là, vous l'effacez, les gens qui cliquent dessus, ils vous retrouvent plus. Enfin bon, c'est toujours délicat d'éditer un tweet ou de l'effacer. Le truc, c'est que Twitter ne veut pas trop qu'on puisse les éditer, sinon ça serait trop facile. Imaginez, vous dites une grosse connerie, genre, ouais, Techscope, c'est nul en fait. Et après, petit malin que vous êtes, parce qu'on vous retweet, vous avez dit un truc négatif et tout, vous faites, ouais, en fait, Techscope, c'est vachement bien. Hein. Quel petit malin tordu pourrait faire un truc comme ça pour faire de la pub sur son émission ? Je sais pas. Hein. Moi, j'ai pas l'esprit tordu comme ça. Mais bref, ça embêterait quand même beaucoup Twitter qu'on puisse éditer facilement les tweets. On sait que Twitter lutte beaucoup contre les fake news, les infox et ce genre de choses. S'il nous permettait d'éditer les tweets, ça serait la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. C'est probablement quelque chose que Twitter ne veut pas faire, mais il y a quand même ce problème aujourd'hui où on aimerait pouvoir soit effectivement corriger des fautes d'orthographe dans un tweet, ou corriger un petit peu un tweet où on a mis un mauvais lien ou ce genre de choses. On va dire ça, c'est la version soft de vouloir éditer son tweet. Mais également de pouvoir l'expliquer. On a vu beaucoup de malentendus. Faut pas oublier que les gens sont pas tous très doués en expression écrite courte. Et qu'il y a souvent notamment du second degré, du dixième degré, de l'humour caustique, des choses comme ça qui ne passent pas du tout sur Twitter. Twitter est très premier degré, hein, vous avez toujours l'armée premier degré qui vient choper n'importe quel tweet pour vous le renvoyer dans la face comme un beau revers au tennis. Et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, hein, parce que c'est un handicap aussi, hein, de ne pas saisir les degrés d'ironie dans un tweet. Vous avez beau mettre des smileys, des clins d'œil, eux, ils voient pas. Donc parfois, pour éviter le bad buzz, il faudrait pouvoir remettre le tweet dans son contexte et s'expliquer un petit peu. Et c'est peut-être cette fonctionnalité-là que Twitter est en train de développer. Il serait en train de travailler sur une notion de clarification. Alors comment ça se présenterait ? Je pense que ça viendrait peut-être pendant comme un truc qui s'afficherait sur le tweet pour que vous voyez que vous l'avez clarifié. À voir comment ils peuvent inclure ça pour pas que ça soit mélangé non plus avec une réponse au tweet. À voir, quoi. Être con, c'est un handicap. C'est une force aussi, hein, d'être con. Hein. T'as plus de chances d'être heureux dans la vie en la traversant en étant con. Hein. Si on laisse le tweet original accessible, il n'y a pas de souci. Ça pourrait être utile pour Donald Trump. J'ai peur que Donald Trump, si on le laisse clarifier ses tweets, lui, ça serait plutôt « je t'en rajoute une couche ». Dans son utilisation extrêmement offensive, à tous les sens du terme, de Twitter. Mais il y a des gens qui adorent, hein, les tweets de... C'est dingue. Je pense qu'il a vraiment compris un truc de dingue, Donald Trump. qu'on le déteste ou qu'on déteste pas, force est de reconnaître qu'il a compris quelque chose, pour moi, de malsain, mais en tout cas d'extrêmement efficace sur la communication de nos jours et sur le plaisir que certaines personnes ont. Enfin, moi, je vois le nombre de personnes, même en France, qui disent « Ouais, il est un peu... » Mais bon, au moins, il dit ce qu'il pense. Enfin, un mec qui dit ce qu'il pense. Ouais, bah, ça me fait un peu peur, ce qu'il pense, justement. Mais bon, je pense que oui, il y a un côté... Il y a toujours eu ce côté, quelqu'un qui dit tout haut, ce qu'on pense tout bas. C'est quelqu'un de plus franc, de plus honnête. On pourrait disserter longtemps sur cette notion, mais bon. Salut Samuel, bonne journée à toi. Merci en tout cas d'avoir géré le début de l'émission. On devrait créer des asiles de cons, mais imaginez la taille des bâtiments. Puis surtout, Eloïc, on revient sur la même question. Quel est le critère du con? À partir du moment... Qui est con? Quel est le critère? À partir de quel moment on devient con, en fait? Où situe-t-il la limite? On est toujours le con de quelqu'un. C'est ça, le problème. Bref, on verra en tout cas pour Twitter. Ça serait une bonne idée quand même qu'on puisse s'expliquer dans le contexte. Il y a énormément quand même de faux scandales liés à des mauvaises compréhensions. Moi, je sais que je me méfie énormément de cette communication écrite courte. J'ai eu dans ma vie des grosses engueulades avec des gens et des incompréhensions totales à cause de SMS notamment. Moi, avec mon espèce d'humour raté à 10 degrés et patati patata, il y a des trucs. Et notamment, j'ai appris une chose dans ma vie, ne pas trop utiliser le tweet en couple, le SMS en couple, parce que bonjour l'incompréhension. On est tous le con d'un autre. Oui, on est tous le con de quelqu'un. On est tous le moche de quelqu'un. On est tous le vieux de quelqu'un. On est tous le jeune de quelqu'un. Bref. Allez, on continue. On va parler un petit peu d'Amazon. Vous saviez que Amazon voulait ouvrir son QG dans les grandes villes américaines. Les grandes villes américaines qui se sont pliées en quatre pour accueillir Amazon. Quitte à même déplaire à leurs élus, à leur électorat, à leurs concitoyens, à faire vraiment des cadeaux fiscaux énormes pour que Amazon installe leur nouveau QG dans leur ville. Le projet final, c'était 3 QG, mais finalement, ça ne sera que 2, puisque Amazon a abandonné son projet du QG dans le Queens, à New York. Il voulait installer son deuxième siège à New York, dans le Queens, mais face aux réticences et à la mobilisation d'élus locaux, l'entreprise a finalement préféré abandonner ce projet, a-t-il été annoncé dans un communiqué publié le jeudi 14 février. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a eu des vagues de mécontentement, effectivement. L'annonce n'a pas été accueillie par tout le monde et pour cause. Par exemple, pour le siège en Virginie, Arlington, qui est une des villes concernées, a augmenté ses taxes locales en prévision de l'arrivée d'Amazon. L'objectif est de financer les subventions massives versées aux géants, 23 millions de dollars, environ 20 millions d'euros, étalés sur 15 ans. La ville de New York avait aussi promis un joli pactole à Amazon, 1,5 milliard de dollars en avantages fiscaux contre la promesse de créer 25 000 emplois par exemple. Donc c'est quand même des cadeaux, même si de la création d'emplois c'est très important pour les villes, ça fait quand même des très très gros cadeaux fiscaux. En plus, il y avait des petits arrangements qui énervaient un petit peu tout le monde. Arlington a même rebaptisé un quartier pour Amazon. Et surtout, les habitants ont craint des gentrifications et des hausses donc de prix de l'immobilier à cause de cette population qui travaillerait chez Amazon. Donc ça a créé des grandes peurs, notamment les élus locaux du Queens. Du coup, il y a eu un peu une levée de bouclier, et du coup Amazon retire ses billes en annonçant que la relation avec les élus n'est pas suffisamment positive et l'esprit de collaboration est insuffisant. Le géant dit avoir besoin d'un soutien sur le long terme du pouvoir local, ce qu'il ne pense pas pouvoir obtenir dans le Queens. Alors, à savoir que Amazon, dans l'absolu, n'a pas besoin de l'approbation. Une entreprise a le droit de s'installer où elle veut. Mais pour éviter de se faire mettre des bâtons dans les roues systématiquement à chaque fois qu'elle veut agrandir le bâtiment, faire des travaux, ce genre de choses, il vaut mieux quand même être comme ça avec les élus locaux pour que les choses se passent bien. Amazon précise qu'il n'abandonne pas complètement New York puisqu'il y a déjà des emplois. 5000 personnes travaillent déjà pour Amazon dans les bureaux de New York. Et du coup, ils vont dispatcher un peu les gens qui étaient prévus dans les 17 locaux d'entreprise situés aux États-Unis et au Canada. Une autre rumeur dit que Jeff Bezos aurait abandonné New York pour aussi des raisons de presse. Vous savez qu'en ce moment, c'est un peu avec son divorce et ses affaires dont on avait parlé avec celle qui serait éventuellement sa maîtresse et des photos de lui nu qu'un certain titre de presse menacerait de sortir, etc. Jeff Bezos a peut-être pas envie de passer une partie de sa semaine à New York, qui est connu quand même pour l'endroit où la presse est la plus présente. Les QG des grands titres de presse sont tous à New York. Donc il a peut-être pas forcément d'être plus présent que ça à New York. Ça serait aussi une hypothèse. En même temps, la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Ouais, ben, y en a qui sont un peu trop décontractés. Hein. T'es le jeune de quelqu'un ? Oui, Clément, je suis le jeune de certaines personnes, oui. Des personnes plus âgées que moi, il y en a. Il y en a. Eh oui, je t'assure. Il y a des gens plus âgés que moi, pas morts, même. Jeff Luthor, il y a un petit peu de ça. Voilà, donc pas d'Amazon à New York. Parlons un petit peu de Nintendo. Nintendo pourrait bientôt faire une annonce à propos de la Nintendo Switch et la réalité virtuelle. C'est vrai que c'est une idée que Nintendo, à travers son histoire, a déjà caressée, hein, puisqu'il y a eu, souvenez-vous, la console Virtual Boy. Un certain nombre de décès et de tentatives de Nintendo dans la VR, et Nintendo serait prêt à intégrer de la VR à la Nintendo Switch, sous quelle forme on ne sait pas. Est-ce qu'ils développeraient leur propre visière virtuelle? On ne sait pas non plus, mais a priori les choses arriveraient en 2019. Alors, ce qui serait intéressant de voir, c'est si ces tentatives rencontrent plus de succès. Connaissant Nintendo, ils penseront probablement d'abord à la jouabilité avant de penser à l'expérience VR. Est-ce que, comment le VR pourrait renforcer la jouabilité, le plaisir de jouabilité des jeux? Je pense que c'est là où Nintendo peut gagner par rapport à la PlayStation VR, Facebook et HTC qui se sont lancés avec les Oculus, le HTC Vive, qui ont eu des succès d'estime, mais on peut pas parler non plus de grands succès mainstream, quoi. Vu la puissance de la Switch, ça semble assez peu crédible. Oui, mais ça sera peut-être une VR plus primitive, mais peut-être plus ludique aussi. Faut voir. Les résidents s'inquiétaient de l'encombrement du métro. Oui, pour l'article précédent, ouais, c'est vrai aussi. Ce serait excellent avec un bon Zelda. Moi, je fais confiance à Nintendo parce qu'ils ont toujours fait ça, quand même. Je suis pas du tout un Nintendo, j'en ai pas, et j'aime pas trop les jeux Nintendo, mais je reconnais qu'il y a toujours un travail sur la jouabilité, même la jouabilité à long terme de leurs jeux, qui est assez impressionnante. Et le plaisir ludique pour eux est toujours, l'expérience ludique est toujours pour eux le point primordial, avant le graphisme, la puissance ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui a toujours fait leur force. C'est ce qui a permis la Game Boy à son époque, qui permet la Switch aujourd'hui, et ce genre de choses, quoi. Bon, après, ils ont eu des ratés, hein, mais... Donc, je pense que, plutôt que de travailler sur de la puissance de VR ou du réalisme de VR, ils doivent travailler sur la jouabilité et le renforcement de l'expérience grâce à la VR. C'est trop tôt pour dire si c'est un vrai flop, ADAD. Vraiment. Pour les techno-fans que nous sommes, oui, c'est un flop parce qu'on en entend parler depuis tellement longtemps de la VR. On se dit ça prend pas. Mais il y aurait plein d'exemples de technologies qui ont périclité pendant un certain nombre d'années et qui, d'un coup, ont fait un boom. Je lisais un article sur les AirPods, par exemple. La première année, voire les deux premières années, les AirPods, c'est pas vendu des masses, faisait un peu étrange. On se disait, mais qui porte ce genre de truc? On en voyait rarement. Et si vous regardez dans la rue, dans le métro aujourd'hui et tout ça, c'est un boom. C'est un boom absolu de l'AirPods. Et des chiffres circuleraient selon quoi l'AirPods s'est mieux vendu que l'iPhone. Allez, Google Glass, oui, là, on peut parler... Enfin, est-ce qu'on peut parler d'échec? Est-ce que Google avait vraiment l'intention de les commercialiser? Est-ce que c'était pas une tentative de tâter le terrain? Ils ont compris, à mon avis, et Apple a appris aussi des Google Glass, que c'était pas la peine de sortir du hardware tant que tu n'avais pas les applications vraiment utiles. Et quand on regarde ce qu'est en train de faire Apple, c'est un petit peu ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il travaille le software, le kit pour faire de la VR avant de se lancer dans du hardware. Salut Olivier Schmitt. Comment que ça va bien ? La VR grand public peine, mais dans l'industrie, ça se développe. Oui, c'est vrai. J'ai toujours dit, la VR, il lui manque un truc. Il lui manque son Wing Commander. Je sais, j'évoque cet exemple souvent. Mais Wing Commander, pour les plus vieux d'entre vous qui s'en souviendraient, Wing Commander est un jeu qui a fait acheter des cartes graphiques. Alors que les cartes graphiques étaient vues un peu comme un truc de hardcore gamer avant... un peu cher, pas compatible avec tous les jeux. On se demandait vraiment si ça allait prendre sur les jeux PC. Et Wing Commander, bah en gros, on n'avait pas le choix. Le jeu, si mes souvenirs sont bons, tu pouvais le faire tourner avec des cartes graphiques un peu moyennes, mais le jeu n'était jouable vraiment qu'avec une bonne grosse carte graphique, un bon Pentium, etc. Serait beaucoup trop lourd avec l'écran dedans. Ouais, de mettre les... Oui, je pense que l'écran de la Switch dedans, je sais pas. Mais après, peut-être qu'avec leur manette... C'est... Ouais, je sais pas. Faut voir. Il y a des gyros dans les manettes de la Switch. Il y a des gyroscopes. Je crois. Ouais, Tomb Raider aussi, en son temps. Tomb Raider aussi, ça avait pas mal fait vendre de cartes son aussi, je me souviens. Ouais, donc, vous voyez, déjà avec les deux manettes de la Switch, on a presque des modules de commande de VR. Hein. Donc, j'y crois, c'est on verra, qui vivra, verra, comme on dit. Allez, on va parler de bananes. Plus exactement de couleur banane. Effectivement, une rumeur aurait couru la semaine dernière d'un Galaxy S10 jaune banane. Et ça a donné l'occasion à une journaliste de CNET, je vais voir si je retrouve son nom. Non, je ne l'ai pas. Si, par Jessica Dolcourt. Qui a écrit un article sur l'importance de la couleur dans les smartphones. Et j'ai trouvé l'article intéressant, puisque c'est quelque chose que je dis souvent. Pourquoi le Huawei P20 Pro, avec son pink, son rose bleu pourpre, a fait autant couler d'encre? Pourquoi les Honor ont des reflets comme ça dans tous les sens, le OnePlus avec un violet Thunder. Effectivement, les experts en vente vous diront que finalement le dernier truc auquel on pense quand on achète un produit, ça dépend quel produit, mais un smartphone, c'est au final la couleur, mais pourtant c'est quelque chose de très important pour nous. La couleur. Pourquoi ? Parce que la couleur, c'est le premier avis qu'on se fait, c'est la première sensation. Au-delà même du design d'un smartphone, la couleur du smartphone, c'est le premier contact avec le smartphone. Et dans le marché saturé qu'est le smartphone aujourd'hui, où la différenciation technologique devient de plus en plus difficile, ah bah oui, on va mettre nos trois appareils photo à la verticale. Oh là là, quelle révolution, monsieur ! Oh là 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 ! Non, pour marquer les esprits, pour marquer sa différence, il faut marquer sa couleur. D'où, et on peut le remarquer, les constructeurs de smartphones qui osent des couleurs de plus en plus pétards, de plus en plus provoques, quitte à ce que les gens disent « Oh, c'est dégueulasse comme couleur !» Oui, mais au moins ils le disent. Ils le disent, donc ils créent du buzz. Donc, on attend le futur Wiko Cacadois. pourquoi pas d'ailleurs ? C'est joli le cacadois, bien porté, cacadois, pourquoi pas. On peut dire que c'est un peu militaire, quoi, un peu voyage, un peu aventure. Mais on les voit effectivement, ces constructeurs sortir, et même Apple, avec le 10R, a sorti des couleurs un petit peu flashy, moi j'ai le rouge. Avant, la couleur était un peu réservée à des produits bas de gamme, qui étaient souvent un repackaging des produits de l'année précédente chez Apple. Cette année, Apple renoue avec une tradition qu'il avait, et ça a fait le succès des premiers iMac, hein, souvenez-vous, quand il a inclus des coques en couleur, enfin des ordinateurs en couleur transparent, ça a complètement changé le marché de l'informatique à l'époque. Donc la couleur est importante et de plus en plus importante. Et justement, on va faire en direct un petit sondage dans la chatroom. Quelle est la couleur de votre smartphone ? Allez-y, dites-moi tous et mentez pas. Hein. Quelle est la couleur de votre smartphone ? Le blouge. Jaune, noir, red, rouge, noir, or, noir, 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 argent, noir, or, bleu marine, noir, blanc, noir, gris, or, blanc, noir, noir, gris, noir, bleu, bleu, orchidée, bleu foncé, blanc, argent, bleu gris, or, gris clair, noir. Noir. Je parle pas de la coque, hein, de votre smartphone. Argent, noir, noir, un or, un noir, bois marron. Non, pas de votre coque. Noir, genre bleu-gris, argent, argent, taupe, rose, blanc, ragaste, troll, licorne, bleu, bleu, bleu. Mauve, noir, noir, noir. Bon, vous pouvez le voir, hein, selon mon étude hautement scientifique, même si les constructeurs se mettent à sortir des smartphones avec des couleurs un peu osées, on est beaucoup à acheter quand même du gris, de l'argent, du blanc, du noir, le noir beaucoup. Et je vous avais déjà expliqué, c'est pareil pour les fabricants de pulls. Moi qui ai travaillé un petit peu pour les Galeries Lafayette, c'était très marrant de voir le stock des pulls. En fait, ils achetaient toute la gamme de couleurs pour mettre dans la vitrine. Mais par contre, dans les rayons, il y avait 5 fois plus de pulls noirs, pulls blancs et pulls gris. Parce que c'est le truc que les gens achètent. Ils rentrent à cause du pull jaune. Ils achètent le pull noir ou le pull gris. Et ben, c'est pareil avec les smartphones. Surtout que dans l'absolu, ces smartphones terminent souvent sous une coque qui n'a pas du tout la couleur du smartphone d'origine. Donc, on pourrait dire, mais là, les gens qui disent ça n'a aucune importance, c'est comme si dire que la couleur de tes sous-vêtements n'a aucune importance. De savoir que tu as telle ou telle couleur un peu prestigieuse dans tes sous-vêtements te donne peut-être une confiance en toi. Pourquoi on met de la couleur sur les sous-vêtements et en dehors même des rendez-vous où on va voir tes sous-vêtements? On choisit quand même la couleur de nos sous-vêtements. La couleur de mon smartphone, ok, mais lequel ? Alors oui, il y a aussi une excellente raison pourquoi les constructeurs font de la couleur sur les smartphones. Eh bien, ça permet aux youtubeurs tech d'avoir quelque chose à dire pendant les unboxings. Hein, parce qu'en dehors de lire la fiche technique du produit et dire les banalités que tous les autres disent, hein, de pouvoir unboxer toutes les couleurs d'un smartphone, c'est une info primordiale pour le youtubeur qui veut sortir sa vidéo d'unboxing avant tout le monde et faire du chiffre. Hein, c'est pour ça que les constructeurs de smartphones sortent de la couleur. La couleur de mes sous-vêtements n'a aucune importance. Bah moi si. C'est comme les lunettes chez un opticien, mais c'est comme les coupes de cheveux. Les gens vont toujours rentrer en disant « Oh, je veux un truc pas classique, hein. » Mais tu leur fais une crête bleue, ils partent en courant. Parfois, le pas classique, c'est « Vous me bougez ma raie d'un millimètre, hein. » Je ne porte pas de sous-vêtements, c'est un choix. Pas forcément hyper hygiénique, mais c'est un choix. J'achète des sous-vêtements clairs, mais ça sombrit, ça fure à mesure. Il faut les laver, ADAD, on ne te l'a peut-être pas dit, mais les sous-vêtements, ça se lave. Alors, tu peux utiliser la fameuse technique des 4 jours. Hein. Tu le portes normalement un jour, tu le retournes le deuxième jour, tu l'inverses le troisième jour, et tu le retournes inverser le quatrième jour. Ça s'appelle les 4 traces marrons. Très classe hein, ce matin, hein. Mais faut dire, hein, vous m'amenez n'importe où là. Oh les graviers, oh là là, ça part dans les graviers. Les couleurs de modèle nous sont imposées. Bah oui, enfin par exemple l'iPhone XR, t'as quand même un bon choix quoi. J'ai fait vomir la moitié de la chatroom. Eh bien, je m'en excuse. Un petit peu, pas trop non plus. J'aime bien vous choquer un peu. Mais voilà, en tout cas, la couleur des smartphones, ça a de l'importance et surtout une importance marketing. Ça fait cheap le dessert. Ah non, moi j'aime bien la façon dont ils ont mis la couleur. Bon, là, j'ai une vilaine coque, mais non, moi, le rouge, j'en suis assez fan de mon rouge. Hein. Je trouve assez joli. Là, il sature un peu à la caméra, mais non, moi, je trouve ça pas mal. Louis Siquet n'est pas trash comparé à Jérôme. Ça se discute. Ça se discute, ça se discute. Allez, on continue, on va parler, et on va terminer d'ailleurs par Samsung. On va parler rapidement, mais Samsung aurait le projet effectivement d'ouvrir 3 boutiques physiques. Ils annonceront probablement ça le 20, là. Ben, le 20, c'est dans 2 jours. Mercredi, pendant les grandes annonces Samsung, que vous ne pourrez pas suivre sur la chaîne, mais sur la chaîne de Steven, très probablement. Moi, j'y serai pas aux events du 20. Enfin, on en parlera dans Techscope hein, probablement le matin, mais je serai pas en direct. En tout cas, je serai pas à Londres. J'ai pas pu y aller, à mon grand regret. Bon, je ferai ça l'année prochaine. Je serai pas d'ailleurs non plus à au Mobile World Congress, puisque c'est les jours où on s'envole pour le Vietnam. Donc, allez chez Steven et tous mes bons collègues. Ah, t'y es pas non plus le 20, Steven. Allez chez tous nos bons collègues pour suivre les actualités. On fait une pub générale pour le YouTube Tech francophone de qualité. Le 20, Steven fait ça. Il lave son caleçon. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on se marre. Oui, donc, je reviens à mes moutons qui s'étaient échappés dans le gravier. Samsung voudrait ouvrir 3 boutiques, une à Los Angeles, une à Long Island et une à Houston. Ça serait bien sûr des boutiques où il y aurait, comme dans un Apple Store, les systèmes de réparation, enfin les équipes de réparation. Vous pourrez acheter des produits, mais évidemment également des expériences. Il y aurait un 4G Gaming Lounge, des 4D VR théâtre, Et également des expériences avec, on va dire, la Galaxy Samsung, avec tous les produits, smartphones, tablettes, leur wearable, etc. En fait, l'analyse est assez fine de The Verge. Il dit, je pense, enfin, The Verge pense, et je pense qu'ils ont raison, que Samsung va surtout ouvrir ses boutiques physiques en prévision de leur foldable, de leur pliable, de leur smartphone pliable. Parce que c'est un téléphone, s'ils veulent en vendre quelques-uns, il va falloir que les gens les prennent en main et l'expérience. Parce que, vu de loin, passer un certain enthousiasme de la prouesse technologique, on se dit, ouais, ça fait bizarre. Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est pratique? Je pense que c'est typiquement le genre de produit pour les faire adopter. Il faudra bien évidemment les mettre dans les mains des gens, en fait. Comment justifier ces endroits, Houston et Long Island? Écoute, je pense que, tu sais, Samsung, ils doivent avoir des bonnes équipes retail. Ça doit être des emplacements où il y a de grosses ventes. Entre les téléphones et les tablettes, Samsung risque de cartonner. Comment? Écoute, faut voir. C'est vrai que la concurrence commence à être plus rude. Je pense que le vrai problème de Samsung n'est pas l'iPhone, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas Apple du tout. De toute façon, dans l'absolu, je pense pas qu'Apple soit un problème pour qui que ce soit dans l'industrie. Au contraire. Mais un jour, je vous ferai peut-être une vidéo où je vous expliquerai le fond de ma pensée. Je pense que c'est par contre, pour Samsung, c'est Huawei qui commence à faire peur. Enfin, pas qui commence, mais qui... d'une manière générale, les OnePlus, les Huawei, les Oppo, etc., qui commencent à venir souffler violemment dans la nuque... Dans la nuque. Putain, j'arrive pas à parler ce matin. Dans la nuque de Samsung. Et c'est surtout ça qui inquiète Samsung, qui utilise effectivement un peu des techniques à la Apple pour asseoir sa notoriété et rester le lead. Je pense que Samsung va tout faire, même s'ils vont continuer à sortir des produits milieu de gamme et entrée de gamme, veut absolument dominer l'Android haut de gamme. Peut-être en laissant une petite place à Google avec les pixels, mais c'est tout, quoi. Merci Oleg de rajouter cette vidéo à un jour à la liste de la Timothée. On en est à 253 entrées, non, je crois, de vidéos que je dois faire un jour. Ça doit être ça. Au moins, j'ai une année complète de vidéos à faire, avec une vidéo tous les jours. Paris n'est pas dans leur plan pour l'instant. Hein. Je pense qu'ils... Ils vont d'abord attaquer le marché américain. Si ça a du succès, on devrait avoir des Samsung Store à Paris. Fais gaffe. Ça sent la contamination. Écoute, c'est un miracle que je ne sois pas malade, hein, pour être honnête. Hein. Vu comme elle est malade, il y a Albert qui a une angine, Marion qui a peut-être une angine aussi. Je ne sais pas comment je fais pour tenir, d'ailleurs. Il n'est pas impossible que je m'effondre, hein. Donc, à voir, en tout cas, pour Samsung. On leur souhaite bonne chance pour l'ouverture de leur magasin. Et c'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On va passer à notre traditionnel « Vite ton fac ». 10 petites minutes, 10 petites minutes avec vous aujourd'hui pour répondre à vos questions. Est-ce que j'ai une question platinium? Il ne me semble pas. Pas de question platinium. Whisky, non, ça va, il est pas malade. Il dort tout le temps, mais c'est pas une maladie chez les chats. Xiaomi a ouvert des stores à Paris. Alors, oui et non. Xiaomi a ouvert des stores, mais c'est un peu des franchises. C'est un peu comme le store DJI. C'est pas vraiment DJI qui a ouvert le store sur Paris. C'est un store qui a été ouvert par Studio Sport avec la franchise de DJI, en fait. Il y a un code promo pour SOS Ciné. Oui, c'est SOS Shoot. Et t'as moins 5% sur tes locations. Donc, il faut le mettre sur le site internet. Il y a un endroit pour mettre un code promo. Un avis sur le LumeCube comme lumière indirecte. Je ne l'ai pas testé, le LumeCube, mais ça a l'air sympa. Moi, j'utilise, j'avais testé les trucs d'aputure, c'est les M9, c'est ça, des petites dalles LED, et je trouve ça très utile, on les utilise encore aujourd'hui. Ça ne permet pas de faire un éclairage principal, hein. C'est une lumière de dépannage, c'était vraiment dans le noir, mais tu peux pas te faire un set d'éclairage avec ça. Hein. On dit acupuncture. J'ai parlé d'acupuncture, moi. Comment peut-on avoir des codes promo Amazon? Ah, ça, je sais pas. Ce matin, j'ai ouvert 6 stores à 9h. Eh ben. Ton radiateur Dyson chauffe-t-il bien? Consomme-t-il beaucoup? Ça consomme, je ne veux pas te mentir, ça consomme autant qu'un radiateur d'appoint milieu de gamme, on va dire. Ça chauffe très bien, comme c'est de la chaleur pulsée. Donc oui, j'ai pas mesuré après, il faudrait faire un comparatif entre un radiateur d'appoint et celui-là. L'avantage, c'est comme la chaleur, elle est pulsée, elle est soufflée, il chauffe plus vite la pièce. Ah, t'as dit aputure, c'était ta blague du jour. D'accord. Jérôme, tu peux retourner sous ton petit rocher. Non, elle peut être bonne. Mais elle aurait mieux marché à l'oral qu'à l'écrit, en fait. C'est quoi les lumières derrière? C'est des Philips Hue. Et en éclairage décoratif pas cher. Écoute, moi, j'utilise les Philips Hue. Elles sont chères, mais elles sont très bien. Le truc, c'est que je connais pas vraiment les autres. Le fait très attention avec le bas de gamme en lumière, parce que tu risques d'avoir du flic. Surtout les trucs dont tu vas régler l'intensité. Dès que tu vas baisser l'intensité, ils vont se mettre à fliquer. Oui, moi, il fait ventilo et radiateur, le Dyson. Durée de vie d'un Philips Hue. Écoute, mes premières Philips Hue, je les ai depuis 4 ans, je crois. Pour l'instant, aucune ne m'a pété dans les doigts. C'est tout ce que je peux te dire. Après, je crois qu'ils annoncent, c'est genre 10 ans, les durées de vie, même plus. Sur les applis mobiles payantes de Spotify, peut-on écouter un album complet ou est-ce que c'est une sélection inspirée comme dans les versions gratuites? Non, tu peux écouter un album complet. YouTube musique et tout, oui, tu peux écouter un album complet. Pour avoir testé plusieurs bas de gamme en lumière connectée, le gros problème, c'est que l'intensité est super basse. D'accord, moi, j'essaierai bien les IKEA pour voir, mais effectivement, souvent, elles vont être moins fortes. Elles vont souvent fliquer et souvent, leur application est un peu pourrie. C'est la seule expérience que j'ai, quoi. Bonne journée à toi, Olivier. Bonne journée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que j'en ai raté? Attends, j'avais raté celle-là. J'ai acheté le Vidéomic Pro de Rode pour mes vidéos de pliage, je pense, de plage avec ton icône. Ou de pliage, peut-être que tu as une chaîne d'origami. Donc les bas de gamme, c'est plus pour une petite lampe, pour faire joli, pas pour une pièce, d'accord. Mi Home pour Ikea, oui, c'est développé avec Mi, hein, Xiaomi, hein, les lampes Ikea, je crois. Mais elles sont vraiment pas chères, j'aimerais bien les essayer. À quelle heure la présentation Samsung? Aucune idée des heures, ça sera annoncé demain ou après-demain, hein. Qu'attends-tu de ton voyage au Vietnam? T'es plus un touriste culturel ou un touriste, je reste à la piscine. On est très, très touriste culturel. En fait, avec Marion, on a des plannings très chargés, généralement, nos jours de vacances. C'est toujours pas de course. On aime... Là, on commence par les temples d'Angkor. Et on fait pas en 3 jours, on les fait en 5 jours. Donc, on va visiter des temples un peu moins connus à Angkor. Après, on continue par un autre temple au Cambodge. Après, on remonte en rivière. On fait en rivière du Cambodge au Vietnam. Donc, on déteste traîner sur une plage ou au bord de la piscine. C'est vraiment pas notre truc. On va quand même le faire parce qu'on sait qu'avant de rentrer, il faudra qu'on se repose paradoxalement. On l'a appris dans notre premier voyage au Vietnam où, heureusement, on avait pris nos 3 derniers jours de repos là-bas dans une super petite maison au bord de la plage. Parce que physiquement, on était épuisés avant de rentrer. Donc là, on s'est pris, je crois, 3 jours également à Phu Quoc, qui est une île un peu paradisiaque au Vietnam, où on va se faire du sable blanc. Mais je sais qu'au bout de trois... Enfin, je me connais. Je vais rester 1 heure sur la plage. C'est un peu pour ça que j'amène aussi une GoPro et l'Osmo Pocket. C'est que je pense que très rapidement, je vais m'amuser à filmer des trucs, à faire le con sur la plage, parce que je déteste rester sur une serviette de plage. Vas-tu apprendre à cuisiner le faux ? On avait pris des cours de cuisine la première année, je crois pas qu'on en ait prévu cette fois. On adore, nous, tout ce qui est temple et archéologie, hein, le tutoriel. Alors, on est avec Marion, tous les deux, on rêvait un peu d'être archéologue. Quand on était petit, et pas forcément des Indiana Jones ou des Tomb Raider, même des vrais archéologues. Moi, gamin, je lisais des bouquins sur l'archéologie. Ouais. Tu nous feras des photos sur Insta, peut-être. Je promets rien, tu sais. C'est des vacances. Je ferai ce que j'ai envie de faire. Voilà. Je me force à rien. C'est des vraies vacances dont j'ai besoin là. J'ai besoin de vous oublier un peu pour mieux vous retrouver. Mais bon, je me connais. Oui, il y aura probablement des choses sur Instagram. Il faut savoir que pour les Hue, tu as 3 prix, les couleurs. Oui, Hue, il y a plusieurs gammes. Hein. Mais les couleurs, elles sont quand même très très chères, hein, les ampoules couleurs. Hier, j'étais au championnat de France d'athlétisme et tous les photographes avaient des Nikon. C'est très populaire, le Nikon, hein, chez les photographes sportifs. Hein. Surtout à cause de leur focale, de leur longue focale. Les Philips Hue, c'est sous forme d'ampoule. Non, moi, là, il y a une guirlande derrière moi. Il y a aussi ce qu'on appelle... Tiens, d'ailleurs, Karina m'a piqué mes go. T'as des luminaires. Ils ont sorti aussi la Play, qui est une espèce de bar qui s'allume. Non, il y a plein de types différents d'éclairage. Oui, il y a plein de trucs chez Philips Hue. Quels sont tes conseils préparation de voyage ? Eh ben, ça sera le sujet d'une vidéo qu'on a tournée. Mais on n'a pas encore fait les tournages d'illustration. Mais je vais vous faire un what's in my bag, dire ce que j'amène et en profiter pour vous donner quelques conseils. Si j'ai le temps, je vais même la doubler d'une deuxième vidéo où je vais rentrer dans des conseils un peu plus... d'autres conseils, moins liés au hardware, à amener en vacances. Mais ça va faire l'objet d'une vidéo. Linus Tech Tip conseille les Yeelight plutôt que les Hue à cause du prix. Oui. Ou de son sponsor. Non, je veux pas être mauvaise langue avec Linus. Il a raison de faire du business. Non, puis je pense qu'il n'a pas été partisan sur cette vidéo-là. Et oui, mais je te dis, moi, c'est simplement, j'en ai pas testé d'autres sérieusement. En fait, on va le faire avec Albert un jour. C'est de tester les Philips Hue et d'autres marques avec, vous savez, son objet pour vraiment mesurer la qualité des lumières. Et on verra si le prix des Hue se justifie ou pas. Et je suis pas payé par Philips. Hein. Alors, il m'arrive la moitié, peut-être pas la moitié, un quart des lumières qui sont ici m'ont été envoyées comme échantillon par Philips Hue. Mais les autres, je les ai payées moi-même. Hein. Donc, pas que la Linus. Oui, il a des sponsors, mais je le trouve relativement transparent là-dessus. Tu testes déjà le X-T3? Ouais, j'ai passé le week-end. Alors hélas, on s'est pas baladé. Donc j'ai juste fait des photos de mes pieds et du chat. Mais je me suis entraîné à utiliser le X-T3 une bonne partie du week-end. J'ai suivi des tutoriaux. Donc le X-T3 n'a plus de mystère pour moi. Enfin, si, il en a encore plein. Mais en tout cas, je sais l'utiliser. Yeelight, c'est chinois. Pas trop fan d'avoir des services en Chine. Bah ouais, je crois que c'est chinois, ouais. Oui, Guillaume, t'as loupé, on en a parlé au début. Hein. De Ming Chico. C'était le premier sujet du Techscope ce matin. Est-ce que j'ai vu la vidéo de Linus Tech sur les droits YouTube? Non. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur les droits YouTube. Hein. C'est quand même un problème. Sans parler de l'article 13 qui nous arrive dans les pattes. C'est un problème, hein, tout ça. Hein. C'est un gros problème. Et Steven, je ne sais pas s'il est encore là, il en a payé les pots cassés là, avec une musique récemment. C'est très difficile pour nous d'essayer de faire nos petits business, nos petites PME, avec des trucs aussi compliqués que la gestion des droits sur YouTube. Mathieu Dos Santos, c'est toi. Vous avez vos maisons équipées de Xiaomi Yeelight. D'accord, si vous avez des questions. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est de voir comment ces lumières réagissent aux caméras, en fait. Oui, c'est clair qu'un des gros effets pervers de l'article 13, c'est qu'il va encore donner un avantage encore plus sérieux aux youtubeurs hors Union européenne. Ça risque. Même si tu marches dans la rue avec une musique à fond, tu te fais striker. Non, mais par contre, tu vois, nous, par exemple, youtubeurs, si on interview quelqu'un dans un salon et qu'il y a une musique de fond, bah, on peut se prendre pas un strike, mais une démonétisation à cause de ça. D'où, moi, je fais très attention à pas trop faire d'interviews dans les salons, quoi, où il y a de la musique. Ah bah voilà, Steven vous donne son témoignage en direct. Et il a voulu être honnête, payer les droits d'exploitation, et tu t'es fait niquer au final. Curiosité, tu l'as acheté chez qui, ta musique? Parce que moi, j'ai pas trop de problèmes, je suis chez Epidemic. J'ai eu quelques problèmes quand j'ai acheté effectivement des titres directement à des artistes qui eux-mêmes ne savaient pas que leurs droits étaient déposés en fait. Donc tu l'avais acheté chez qui, Steven, ta musique? Que j'y aille pas. Allez, je prends une ou deux dernières questions. On va voir aussi si Steven peut nous répondre. Et puis après, je vais vous laisser. Je vous retrouverai demain. Ah, j'ai plus de questions. Plus personne n'a de questions. T'as arrêté Epidemic, tout le monde utilise les mêmes. C'est un peu le problème, ouais. Ça vient d'un autre site du même style. D'accord, ouais, mais peut-être pas aussi fiable alors. Epidemic, tu payes un abonnement et tu as le droit d'utiliser leur musique. Normalement, la licence est à vie et ça, c'est important parce que tes vieilles vidéos ne se fassent pas. Parce que eux, Epidemic, par contre, ils déposent toute leur musique pour vérifier que les gens qui ont utilisé leur musique ont bien payé chez eux, quoi. Je sais parce qu'une fois, j'ai passé une musique d'Epidemic sur cette deuxième, sur la chaîne Nowtech Live, pour laquelle j'ai pas d'abonnement Epidemic, et je me suis pris une démonétisation tout de suite. Mais effectivement, épidémique, je comprends ton problème. J'ai le même, Steven, c'est que tout le monde utilise les mêmes musiques. Donc, il faudrait soit que épidémique. C'est pour ça, moi, après, j'ai des méthodes de recherche de musique dans épidémique pour essayer de pas prendre les mêmes. Mais il y a un truc qu'ils devraient mettre, c'est combien de fois cette musique a été utilisée ou téléchargée. C'est une info qu'on avait dans les musiques YouTube et qui était assez pertinente. Ouais, d'accord, tu fais un achat individuel pour chaque musique. Moi, à une époque, j'avais essayé de faire ça sur SoundCloud et de contacter directement les artistes et de leur acheter des morceaux. Le seul problème, c'est que ça demande un boulot de ouf en amont pour gérer ça. Il faut reconnaître, et Epidemic, c'est que c'est super pratique, quoi. Et ça va vite. Quel groupe ou artiste voudrais-tu mettre dans tes vidéos? Ça, moi j'avoue que mon rêve, et je le dis, hein, j'arrêterai là-dessus, mais mon rêve, ça serait de faire ce qu'arrive à faire un Will Smith, un Casey Neistat ou d'autres, à avoir entre guillemets de la vraie musique. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de titres. Par exemple, une musique dont je rêverais pour faire mon générique, ça serait Ron. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de ces musiques que j'aimerais mettre dans mes vidéos. Et j'aurais adoré que le générique de Nowtech soit un des... notamment plusieurs morceaux de Ron j'adorerais avoir. Et plein de musiques que j'entends, j'adorerais pour illustrer des vidéos. Ça serait tellement plus fun. Mais je sais pas comment ils font, hein, d'ailleurs, les Casey. Je pense que simplement, ils ont quelqu'un qui va appeler, qui va s'assurer d'avoir les droits des musiques chez les majors et s'assurer de les avoir. Mais tout ça, ça demande énormément de temps, quoi. Mais j'en ai déjà parlé avec Daniel Béja, hein. Il a une plateforme aussi. Mais sa plateforme n'est pas assez importante. Mine de rien, nous, on consomme 3-4 musiques par vidéo en sortant une vidéo par semaine. Hein. Donc ça en bouffe. Hein. Et on essaie de pas remettre les mêmes. Hein. Les guirlandes You, tu les branches, elles sont pas coupables, je suppose. J'ai pas compris. Essaye de faire tes propres musiques. Bien sûr, j'ai le temps, Longson. Tu sais, je m'ennuie, en fait. Je m'ennuie, j'ai du temps à perdre. Donc, je vais créer mes propres musiques. En plus, musicien comme je suis, ça va être sympa, hein, les musiques. Et en plus, tu crois pas si bien savoir, j'ai essayé une fois de mettre une musique que j'avais composée avec une application et tous les commentaires m'ont fait « Elle est dégueulasse, ta musique. » Donc, j'ai arrêté net. Fais ta musique sur des pots de yaourt dans les toilettes et tu mets de la réverb et du Larsen. Tu auras une musique unique. C'est clair. Je peux aussi faire des musiques avec mes pets. Hein. Et là, je pense que je me ferai remarquer. Hein. On peut les couper pour régler la longueur. Ah, les guirlandes. Alors, les anciennes guirlandes, on peut les couper. Les nouvelles guirlandes, celles du jardin, on peut pas les couper. Allez, c'est l'heure. Faut que j'y aille, hein. Et putain, il est 9h09. J'aime bien discuter avec vous, mais après, je vais être en retard. Surtout que j'ai un rendez-vous ce matin. Je vous fais des gros bisous. Soyez sages, soyez bons. Et on se retrouve demain matin pour un autre Techscope. Techscope. À demain. Ciao tout le monde.